Le meilleur de la playlist de ta vie sur RMC Call.
Les meilleurs moments de la playlist de ta vie, 22h, 23h, en ce vendredi, même pendant les vacances, hors de question de vous lâcher. Alors là, il y a un programme extrêmement chargé. On parlera avec l'un des leaders du groupe Les Avions, vous vous souvenez, dans les années 80. Jean-Pierre Morgan sera avec nous. On reviendra également sur Emily in Paris avec l'acteur, celui qui a interprété Luc, Bruno Guéry. Mais pour démarrer, eh bien, on va parler de disco et on ne peut pas parler de Patrick Hernandez sans parler évidemment de ce tube culte, Born to be Alive. Là, tu l'entends déjà dans le casque. Est-ce que tu encore une fois ou toujours un plaisir quand même de le réentendre pour la combien 100 000, un millionième fois?
Non, il y a vraiment une magie dans cette chanson, et il y a surtout un message qui est véhiculé par la chanson qui est vraiment important pour moi. Ça veut dire né pour être vivant, né pour faire des choses, et je me suis aperçu d'ailleurs à un certain moment que ça touchait beaucoup les minorités, cette chanson, et notamment aux États-Unis.
Ah oui.
Et je me suis effectivement aperçu que j'avais de la philosophie sans le savoir, comme Monsieur Jourdain, en fait. Et c'est important, ce message qui est véhéculé avec cette chanson.
Est-ce qu'il arrive de temps en temps, en le réécoutant comme ça, alors pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, est-ce qu'il pourrait arriver que Patrick Hernandez se replonge dans le moment où ça a été écrit, composé, sorti, ou pas du tout, on est plus à l'écoute générale, ou des fois ça arrive d'avoir le moment précis, de se souvenir de ces moments exacts? Parce que ce morceau-là a été d'abord, c'est une version rock de 1973, si je ne dis pas de bêtises. Nous, on la connaît sur cette version-là, mais apparemment, il y aurait eu une version rock.
Oui, il y a eu une version rock en 75. J'ai écrit la chanson en 73.
Ah, pardon, ouais.
Et j'ai écrit la chanson d'une manière acoustique. C'était une petite réaction contre les gens qui m'entouraient, qui faisaient les choses à moitié dans leur métier, en amour, etc., etc. Donc, c'était un peu une réaction contre ça. Et en 75, je travaillais dans un groupe qui s'appelait Paris Palace Hotel.
Ouais.
PPH. Et dont on disait d'ailleurs, passera pas l'hiver à l'époque. Effectivement, PPH.
Ah oui, déjà. J'étais déjà dans un bon délire.
Et en fait, on a fait une version rock de cette chanson, rock américain, un peu dans l'esprit de Doobie Brothers, de Eagles. Et en fait, cette version a été enregistrée par le producteur qui enregistrera aussi la version disco.
Ouais.
C'était déjà une approche de la chanson, et c'est parce que la chanson devait lui plaire particulièrement.
D'accord, très bien. Donc ça sort donc 75. Est-il vrai aussi, après on va parler vraiment du concept de l'émission de ce soir, est-il vrai sur cette chanson-là que, après, quand il n'y a pas eu le succès, t'as presque décidé d'arrêter la musique, oui, pour te consacrer à autre chose, à un élevage, c'est ça, de veaux? Est-ce que c'est vrai, ça aussi? C'est une légende ou c'est véridique?
Non, c'est vrai, pas une légende, c'est tout à fait exact. Enfin, j'avais une fiancée à l'époque dont les parents faisaient de l'élevage de veaux en batterie. C'est pas beau d'ailleurs, l'élevage, ouais, de veaux en batterie. Je faisais du bal le samedi et le dimanche, et la semaine, je faisais de l'élevage de veau avec la famille de la fiancée. Ça n'a pas duré très longtemps.
Mais c'était quand même dans l'idée d'une reconversion, ou c'était juste parce qu'un coup de ras-le-bol de j'y arrive pas, la musique, je vais peut-être pas en faire ma vie, donc il faut que je pense à une reconversion? C'était une démarche sincère, ou c'était juste un peu désespéré?
Non, c'était un peu désespéré. Ah, c'était, ouais, pas quelque chose qui me passionnait, bien évidemment, et c'était en attendant de faire autre chose. Et le autre chose, effectivement, est arrivé avec un message du producteur Jean Vandelot, qui m'a appelé de Belgique pour que je vienne le rejoindre. Et c'est après ce contact que nous avons retravaillé sur Born to Be Alive.
Voilà pour la petite histoire. On reviendra sur le titre qu'on écoutera probablement dans son intégralité avant la fin de cette émission. On aura, tout à l'heure en sommaire, je dis ouais, il y a plein de chiffres. Tu nous as pas donné des chiffres. On va donner des chiffres, le nombre de disques d'or, d'exemplaires vendus. Pour l'instant, on garde le suspense. Tu me diras si effectivement les chiffres sont les bons, mais à mon avis, ils sont en dessous de ce qu'ils doivent être dans la réalité, parce que là, je pense que franchement, il n'y a pas un artiste qui rêverait pas d'avoir les chiffres qu'on va avoir. Mais, donc, dans la playlist de ta vie, le concept Patrick Hernandez et d'avoir accepté l'invitation, évidemment, je réexplique, hein, on envoie, une fois que l'artiste donne son accord, on envoie effectivement des thématiques, et puis on remplit. Est-ce que ça a été un peu difficile de se replonger comme ça dans les souvenirs, parce qu'on va parler de souvenirs d'adolescence, premiers souvenirs, etc. Est-ce que ça a été compliqué ou pas à remplir ce petit questionnaire?
Non, ça n'a pas été compliqué.
C'est revenu tout de suite.
Effectivement, c'est un exercice que j'aime bien faire.
Ah ouais.
Parce qu'en plus, ça fait remonter des souvenirs, ça fait remonter des petits détails que les gens, que le public, en tout cas, ne connaît pas forcément. Donc ça peut être aussi, pour ceux qui s'y intéressent,
oui, bien sûr,
intéressant pour les gens qui écoutent.
Ah bah toujours, nous les invités nous surprennent souvent sur leurs choix musicaux et des fois ils vont dans des directions auxquelles on ne s'attend pas. J'espère que ça sera le cas. Alors il y a un ou deux artistes quand même qui, on dévoile pas lesquels, on va le comprendre au fur et à mesure de l'émission, qui quand même reviennent assez régulièrement, dont un groupe absolument mythique, ouais, mais qui revient de toute façon très régulièrement dans l'émission avec les invités, et quels qu'ils soient, peu importe les générations, même les nouvelles générations jeunes, ils sont toujours fous de ce groupe-là, qui nous vient de Liverpool. Voilà, c'est le seul petit indice que je vais vous donner, mais à mon avis, ça va vous aider. Alors, Patrick Hernandez, d'abord, quand on ferme les yeux, premier souvenir musical, ça serait lequel et pourquoi ?
Alors, le premier souvenir musical, ça va être mon père qui était pharmacien, mais qui faisait aussi des balles le week-end, qui jouait de la mandoline et qui jouait du banjo. Et en fait, les premières vibrations musicales que j'ai senties, c'est mon père m'asseyait sur la table.
Ouais.
Et j'étais vraiment petit. Hein.
Quel âge, justement, tu te souviens à peu près ?
Je devais avoir
4-5
ans. Oui, 4, 5, 6 ans à peu près. Et donc, il jouait, et mon père était d'origine espagnole, comme mon nom l'indique, d'ailleurs, en parenthèse. Et il me jouait, effectivement, des chansons du répertoire espagnol qui chantonnait aussi. Donc, il y avait
une bonne voix ?
Il avait une voix sympa,
ouais,
une voix chaude, et donc il y avait du Malagueña, des Maria Elena, des choses très typiques du répertoire.
Donc ça, il le jouait en dehors de son travail, le week-end, de temps en temps, dans le salon, et donc il t'asseyait, donc tu disais, sur une chaise ou sur
la table
directement, et il jouait des morceaux. Pour toi, quand tu étais son premier public, quoi.
J'étais son premier public, et en fait, ça n'a déclenché que de l'intérêt du moment, mais ça n'a pas déclenché du tout une passion chez moi à cette époque-là. Je m'intéressais pas vraiment à la musique.
On va écouter le titre en question que tu as sélectionné, tu vas nous le donner dans une seconde, mais juste avant, pour parler encore de ces premiers souvenirs, en dehors de jouer de la musique pour le papa, est-ce qu'il y avait de la musique que t'entendais régulièrement dans la maison? Est-ce que la musique faisait partie intégrante, justement, de la famille Hernandez?
Tout à fait, dans une famille, ma mère était italienne, donc dans une famille italo-espagnole, ça chante, les oncles et tantes le dimanche chantent à la fin du repas. Oui, j'ai baigné là-dedans, mais encore une fois, je remets la passion n'est pas venue au travers de ça, mais c'était une famille typique du sud, et donc
déjà quand ça parle, ça chante, hein, déjà italien, déjà, espagnol.
Tout à fait, surtout les Italiens. Entre parenthèses.
Quel est le titre, donc, Patrick Hernandez, tu as choisi pour le premier souvenir musical dans la playlist de ta vie?
Alors, c'est un titre, effectivement, d'origine espagnole, qui s'appelle Maria Elena, qui est un titre non chanté, qui est un titre joué.
Ouais, guitare.
Joué à la guitare. Et donc, c'est un des titres que mon père me jouait quand j'avais 4-5 ans et qui m'asseyait sur la table.
D'accord, on va écouter le titre. Alors, je ne vais pas m'aventurer à donner le nom, parce que moi, je n'ai même pas fait une heure d'espagnol. C'est Los Indios.
Los Indios.
Los Indios. Ah bah, tout court. Ah bah, très bien, tout va bien. C'est Patrick Hernandez, notre invité de ce soir. C'est la playlist de ta vie jusqu'à 23h sur RMC Gold. RMC Gold. Oui, vous êtes bien sur RMC Gold, hein. C'est pas Mélodie FM, hein, que vous êtes en train d'écouter. C'est Patrick Hernandez qui fait la sélection ce soir de la playlist de ta vie. Voilà, le roi du disco qui, lors de ses premiers souvenirs musicaux, bah voilà, c'était ses chants comme ça, espagnols, du papa qui interprétait des titres. Tu le disais, hein, c'était dans la cuisine ou dans le salon, assis sur la table.
C'était dans la cuisine, sur la table de la cuisine, effectivement, que mon père m'essayait et me jouait ses chansons. Bon, voilà.
Et tu disais que là, tu le réécoutais, tu as dû le réentendre, mais là, tu le réécoutes grâce à l'émission et c'est toujours un souvenir.
C'est très émouvant. Ouais. C'est très émouvant parce que ça me rappelle effectivement ces moments-là. Et ce sont des images
qui sont marquantes.
Qui sont marquantes et qu'on chérit en général quand on est un bon fils.
Ça a été le cas, j'en suis sûr. Patrick Hernandez, notre invité dans la playlist de ta vie, c'est sur RMC Gold, c'est jusqu'à 23h. Et sans plus tarder, on va parler maintenant de l'adolescence. On va faire un petit bond en avant. Ouais. D'une dizaine, une quinzaine d'années, comment se passait l'adolescence de Patrick Hernandez par rapport déjà même à la musique? Comment c'était? Est-ce que là déjà on commence à écouter quelques disques, la radio? Est-ce qu'on achète des CD? Non, pas les CD, ça n'existait pas, des vinyles, des cassettes?
Alors non, en fait j'écoute pas de musique ou très très peu. Et en fait tout démarre sur un voyage en Angleterre que je fais en 64 et 65 où mes parents on a une très mauvaise idée de m'envoyer là-bas parce que je me projetais comme un prof d'anglais. J'aimais bien l'anglais. Et j'étais assez doué pour parler cette langue.
Tu te destinais peut-être à être professeur d'anglais.
Professeur d'anglais. Donc mes parents ont l'idée de m'envoyer en Angleterre pour 2 ans dans une famille.
Pour perfectionner l'anglais, quoi.
Pour perfectionner l'anglais, suivre mes études, mais je les suivais là-bas. J'étais dans le Kent, dans une petite ville qui s'appelle Hull Bay. Pas loin de Canterbury. Et en fait, c'est à ce moment-là, alors que je ne m'intéressais pas du tout à la musique, que j'entends un son à un moment dans le salon. Et je tends l'oreille, je viens voir, et sur une télé en noir et blanc, je vois 4 énergumènes chanter une chanson qui s'appelle « She Loves You ».
Ouais.
Et les harmonies vocales, la chanson, le tempo de la chanson m'ont emballé. Et à partir de ce moment-là...
Donc les Beatles, évidemment.
Les Beatles, bien sûr.
Ouais.
She Loves You, oui, effectivement.
Je dis ça pour les plus jeunes qui nous écoutent, mais les Beatles, ouais. Donc là, tu vois ça sur ton poste de télé, tu les découvres pour la première fois, t'en avais jamais entendu parler.
C'était en 64.
Ouais, donc ça faisait un an qu'ils étaient connus à peine, ouais.
À peine. Ils avaient fait l'Olympia en première partie de Sylvie Vartan et de Trini Lopez.
Vous rendez compte, première partie de Sylvie Vartan, les Beatles quand même.
Tout à fait.
Ah, c'est pas mal ça.
Et donc là, je me suis vraiment passionné et je les ai suivis, bien sûr.
Donc
là,
tu as demandé tu étais dans une famille d'accueil, donc tu vois le poste de télé dans le salon, tu demandes ce que c'est, on te dit que c'est les Beatles.
Ouais.
Et là.
Et là, ça me donne envie de faire de la musique. Quoi.
Direct.
Et donc, ça a été une drogue dure, hein, ouais. vraiment.
Donc le choc musical, le premier, c'est les Beatles. On est en 1964, t'es en Angleterre pour faire tes études, peut-être pour devenir professeur d'anglais.
Yes, sir.
Et là, tu sais déjà, en écoutant ce titre-là, non, j'exagère un peu, mais est-ce que tu sais que là, ça va changer, que les études, à quel moment ça va vaciller, ça va partir de « j'arrête mes études et je me consacre à la musique », ça c'est quelques mois après,
ah ouais, effectivement, parce que à ce moment-là, effectivement, je m'identifie, donc j'achète une guitare, et puis j'apprends les chansons des Beatles, j'ai un autre copain qui est aussi passionné, donc on joue tous les deux, et à partir de ce moment-là, je commence à lever le pied un peu, effectivement, sur les études.
Ouais.
Et ça se terminera pas très bien, à vrai dire.
Oui, oui et non, parce que le tube, quand même, Born to be Alive, c'est en anglais.
Pour les études et pour le professorat d'anglais,
Pour les parents, à la fin, quand même, l'anglais, c'est des fois, on fait des études, ça sert plus à rien, on part dans une autre direction. Et des fois, on s'aperçoit que 10-15 ans après, les études qu'on a pu faire pour certains enfants, ça peut servir même dans d'autres registres.
Hein. Ça m'a certainement servi à écrire les paroles de Born to be Alive.
Consciemment, et de penser à chanter et à écrire en anglais, ça, c'est une certitude.
Tout à fait.
On va s'écouter ça, c'est dans la playlist de ta vie. Patrick Hernandez, notre invité, jusqu'à 23h, avec le tube de son adolescence. Il y en avait plein, mais celui-ci, ça a été la révolution. Mais putain, she loves you, and you know that can't be bad. La signature de Patrick Hernandez, She Loves You, c'était les Beatles, le morceau qui a marqué l'adolescence de Patrick Hernandez dans la playlist de ta vie.
RMC God, 22h-23h, la playlist de ta vie.
On va faire une petite pause d'une minute dans quelques instants parce qu'il faut un petit peu manger, hein, c'est important, c'est ce que c'est, hein, tu connais ça par cœur. Avec Patrick, évidemment, on va revenir sur la playlist de ta vie avec d'autres thématiques, j'espère qu'on pourra en aborder pas mal. J'aimerais bien qu'on parle dans quelques minutes de la collaboration avec qui tu aurais rêvé collaborer. Bon, voilà, on va avoir une petite idée par rapport aux Beatles. Et puis, bien sûr, il y aura le morceau Plaisir coupable, sans oublier, pour terminer tout à l'heure, c'est pas pour tout de suite, mais il y aura également le questionnaire de réincarnation. Juste avant la pause d'une minute, puisqu'on parle des Beatles, la question que j'ai dit aux antennes, il y a une petite question rapide que je pose à tous les invités qui nous mettent les Beatles. Est-ce qu'on est plutôt famille John Lennon ou Paul McCartney ?
Harrison.
Bah écoute, une fois je l'avais évoqué, j'avais dit ouais, on oublie trop souvent, il y a Ringo Starr, mais on oublie trop souvent George Harrison, qui a eu du mal à rentrer dans le duo au départ, parce qu'ils étaient quand même assez exclusifs tous les deux.
Tout à fait, il était un peu mis à l'écart le garçon. En fait, si tu veux, pour répondre directement à ta question, je préfère quand même McCartney.
McCartney, ouais.
Ouais. Mais
pour quelle raison entre McCartney et John Lennon, qu'est-ce qui fait que t'es plus sensible à l'univers McCartney?
Parce que McCartney écrit des chansons qui servent à rien, j'aime bien. C'est des chansons qui sont seulement des mélodies, il n'y a pas de...
Tu parles au niveau des textes, ça reste assez léger. Ouais.
Oui, c'est léger. Et puis en plus, il y a son amour des années 20, 30, etc., 40. C'est une musique que j'aime bien aussi. Une musique un peu jazzy, chantée, qu'on retrouve sur une chanson comme When I'm 64 ou Maxwell, par exemple.
John Lennon un peu plus expérimental, peut-être, un peu plus dans le... Non.
Aussi, et je trouve que Lennon était extrêmement brillant à l'époque de Strawberry Fields Forever, par exemple, et de ses expériences de l'époque. Et quand il a quitté les Beatles, il y avait une espèce de volonté de faire des chansons avec deux ou trois accords, de les dépouiller au maximum. Alors ça a marché, bien évidemment, sur Imagine, qui est une immense chanson que j'adore.
Woman, et ouais, cet album-là qu'il a fait avec Yoko Ono. Ouais.
Et le reste, et puis Yoko Ono, je suis pas client encore. Non plus, quoi. Donc, la tête de Chuck Berry quand elle joue du tambourin sur un duo entre Lennon et...
Là, ils se demandent, ils se disent, qu'est-ce qu'elle fout là? C'est qui cette dame? Elle a dû se tromper de salle.
Elle a dû se tromper. Donc voilà, non, j'ai une préférence pour Harrison, effectivement, et puis McCartney.
Vous écoutez le meilleur de la playlist de ta vie sur RMC Gold.
Oh là 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 là, on aime bien cette expression de dire c'est que du bonheur, mais c'est un régal, les meilleurs moments de la playlist de ta vie. On a eu le roi du disco, Patrick Hernandez. On parlera avec tout à l'heure de Jean-Pierre Morgan, avec le leader, le chanteur du groupe Des Avions. Mais là, dans l'immédiat, dans les meilleurs moments de la playlist de ta vie, c'est Bruno Guéry qui est notre invité ce soir. On rappelle quand même, Bruno, il a tout simplement interprété Luc dans Emily in Paris.
Ouais, il va y avoir une saison de plus, ils l'ont annoncé il y a 3 semaines, là, on sait qu'il y aura une saison 6. Et voilà, par contre, j'ai aucune idée des péripéties, mais il y aura une saison 6.
Ça, c'est quand même, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, c'est quand même un truc de fou. Ça, c'est un personnage, ça va rester culte pour toi dans tout ce que tu as pu faire. Ça, c'est sûr que ce personnage va rester
gravé à tout jamais.
Reconnu dans la rue, j'imagine que.
Reconnu à l'étranger, c'est ça qui est.
Ça doit être fou.
Plus même qu'en France.
Ouais.
Quand je vais à New York, quand je vais à Rome, à Budapest, je suis reconnu partout parce que c'est un phénomène international, quoi. Donc, c'est dingue.
Et les gens viennent, les étrangers viennent à Paris et veulent aller voir directement les endroits où on s'est tourné des scènes. Ouais. Ça dure combien de temps d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, quand vous faites les épisodes, c'est sur une série, c'est sur un temps
en gros
très 4 limité.
Mois. On tourne pendant 4 mois.
D'accord. Ouais. Et ça c'est non-stop, la tête dans le guidon. Faire que ça. Très bien. Ouais. On va revenir un petit peu sur la musique. Tout à l'heure on a évoqué Serge Gainsbourg. On va en parler dans un instant de Coluche également. Oh, puis, allez, tiens, on va se faire un kiff monumental. J'ai envie qu'on parle de Coluche.
Ouais.
Que représente pour toi Coluche, c'est ton humoriste préféré?
Clairement, c'est de très loin. Et puis tu sais, j'en ai parlé après avec les gens que j'ai rencontrés dans ce métier. Donc j'en ai parlé avec Galabru, j'en ai parlé avec Thierry Lhermitte, parce que je suis devenu copain avec Thierry Lhermitte. J'ai joué dans une série qui s'appelait Doc Martin.
Ouais.
Et Thierry était très copain avec Coluche au point où il a vécu chez lui. Donc il m'en a beaucoup parlé. Et là, tu découvres aussi l'homme. Tu découvres l'impact qu'il avait. Il me disait, moi, parce que Lhermitte, je me rappelle, il me disait, quand j'étais chez Coluche, des fois, j'ai vu qu'il y avait dans les soirées Jack Nicholson, Mick Jagger. J'ai dit, mais quoi?
Il
me dit, ouais, c'était l'endroit où il fallait être chez Coluche.
Il y avait toujours du monde. Il paraît que c'était gavé tout le temps du monde.
Et puis, et Galabru, je me rappelle, Michel, un jour, qui m'avait dit, moi, les deux personnes, Guéris, qui parlaient un peu comme ça, qui m'ont vraiment marqué par leur intelligence dans ce métier, c'est Bourvil et Coluche.
Ah ouais.
Et c'était les deux mecs qui jouaient le mieux, sans doute, les cons.
C'est vrai.
Et donc ça m'a beaucoup marqué. Et donc Coluche, non, moi c'est une influence majeure, vraiment dans la comédie, il m'a inspiré énormément. Et
t'as des sketchs que tu préférais à d'autres? Il y en a tellement.
Non mais...
C'est l'histoire d'un mec déjà, rien que celui-ci.
Celui-là, il est très très fort parce que... Tu sais, Frédéric Dard, il avait dit, il faut du talent pour faire rire avec les mots, mais il faut du génie pour faire rire avec les points de suspension.
Oui.
Et Coluche, c'est l'histoire d'un mec, il dit, c'est l'histoire d'un mec, ça dure 3 minutes et tout le monde est fracasse de rire.
C'est vrai, c'est
avec
vrai.
Avec rien,
c'est
il arrivait
rien.
Déjà. Et en plus, il avait le fond et la forme.
C'est vrai.
Donc il avait tout, Coluche, vraiment.
C'est vrai qu'il avait, on disait, il avait énormément d'avant. D'ailleurs, aujourd'hui, même quand on réécoute des sketchs aujourd'hui, on a l'impression que ça serait quasiment, on va dire, à peu de choses près fait aujourd'hui. Ça serait toujours un véritable carton.
Sur la politique, l'ancien combattant. Et rends-toi compte le nombre de gens dans la vie qui disent souvent, ah oh, si Coluche était là.
Oui.
Oh, si... Tu sais, c'est pas souvent.
C'est très rare, beaucoup d'artistes.
Ouais. Si Coluche, comme s'il nous manquait de dire le réel, de dire aux hommes politiques, et puis avoir fait les Restos du Cœur, enfin que ce soit un mec avec une salopette et un nez rouge qui donne à bouffer à des milliers de gens tous les hivers, c'est quand même inouï.
Il faut quand même rappeler les Restos du Cœur, donc ça part d'une émission qu'il faisait, je crois, sur Europe 1, et un auditeur lui parle, comme ça, lui évoque les gens qui sont un peu dans la misère dehors, et puis il dit, tiens, pourquoi on se ferait pas un resto ou un truc? Tout est improvisé presque en direct, et puis de là, il lance le défi de le faire, évidemment, comme tout le monde, pensant que ça va durer le temps d'un an ou deux, puis que ça va s'essouffler, et puis ça a duré tout
exactement.
Le temps. Et d'ailleurs, je crois que même pour la première, il y avait tout le monde. Hein. C'est la seule fois où il y a Johnny Hallyday qui est venu. Il y a eu Sardou. Je crois qu'il y a eu Eddie Mitchell. Tous les plus grands étaient venus pour la première saison à l'époque. Et puis malheureusement, ça dure encore aujourd'hui. Alors là, il y a un sketch. Enfin, c'est un sketch chanson de Coluche. Le morceau que tu pourrais faire écouter à quelqu'un qui ne te connaît pas pour te découvrir, t'as choisi ce morceau de Coluche.
Ouais.
Raconte-nous pourquoi t'as choisi ça. Je suis l'andouille qui fait l'imbécile.
Eh ben parce que les paroles, en fait, si on écoute, c'est des choses que vivent beaucoup de gens qui font rire, qui font les comics. Donc on a tendance des fois à être confondus avec nos personnages. Les gens dans la rue, c'est super sympa, ils viennent me voir parce que je suis Luc. C'est ce que raconte Coluche.
Eh ben là-dedans. On va s'écouter ça. Là, c'est le sketch en intégralité, Coluche. Voilà, je suis l'andouille qui fait l'imbécile. Écoutez bien, et écoutez bien les paroles parce que ça c'est absolument dingue et c'est sur RMC Grenoble.
Avec mon air con, reconnais partout mes salopettes râpées aux genoux et mes lunettes sur mon gros nez. C'est pourtant vrai que j'ai l'air con. Quand je tombe par hasard devant une glace, il m'arrive de me faire marrer. Je suis l'andouille qui fait l'imbécile, la coqueluche des durs au boulot. J'aime mieux faire marrer le prolo que faire penser dans les familles. Que faire penser dans les familles. J'étais lancé
paquet de lessive. On dit que je m'écraserai comme un paquet de mouise. Pourtant, si la vente se maintient, je tiendrai jusqu'à l'été prochain. Je suis le plus obscène de la radio. C'est juste ça qui est rigolo. L'andouille qui fait l'imbécile. Mon nom sonne comme une maladie. Mais grâce à ça, je traîne au lit. L'air qu'on me fait la vie facile. L'air qu'on me fait la vie facile. De message, ni de méchanceté. Pourtant, j'ai le grand avantage d'être détesté par la moitié. Des Belges, des Suisses et des Français. Mais je me fous bien de leur voix qui gronde. Je ne veux pas plaire à tout le monde. Imbécile. J'ai tendance à penser tout haut. Ça fait bouillir sous les chapeaux. Avoir l'air qu'on peut être utile. L'être vraiment serait plus facile.
Mesdames, messieurs, Coluche, je suis l'andouille qui fait l'imbécile, le morceau qui tu feras écouter à quelqu'un qui ne te connaît pas pour te découvrir, et c'est Bruno Guéry qui a choisi ce titre-là. Ça fait longtemps que tu n'avais pas réentendu, ou franchement, hein, et tu te replonges directement dedans.
Ah ouais.
C'est incroyable. On en parlait il y a quelques minutes, et puis on le dit ça pour les plus jeunes qui nous écoutent. Allez vous replonger dans, alors là, il chante, mais dans du Coluche, peu importe les albums, ils sont tous aussi extraordinaires. T'as pu le voir sur scène, non ?
Non, malheureusement.
Parti trop vite, évidemment. On continue à avancer. Je regardais, il nous reste 13 minutes. Hein. Donc, va falloir qu'on trace la route, mon ami. Non, mais là, je veux qu'on parle de Serge Gainsbourg. Ouais. Dans cette playlist de ta vie, le morceau que tu aimes écouter la nuit. La nuit, d'ailleurs, t'es quelqu'un qui te couche tard, tu vis la nuit ?
Je m'en couche tard, ouais.
Tu vis la nuit ?
Avant, je jouais beaucoup au théâtre, donc.
Oui, t'as besoin de décompresser après, c'est vrai.
Il y a l'adrénaline. Maintenant, je joue moins au théâtre, mais je me couche toujours tard. Ouais.
T'aimes bien ça, ouais. T'aimes bien veiller quand tout le monde dort.
Du soir, je vais jamais me coucher tôt.
Tu fais quoi la nuit là ? Tu regardes des séries ?
Je regarde des séries, j'écoute de la musique.
Et t'écoutes, donc là, on va parler de un grand également, Serge Gainsbourg, parce qu'on a parlé de Coluche, mais bon, les deux étaient potes aussi, hein, je crois. Serge Gainsbourg et Coluche, ils se fréquentaient énormément. Serge Gainsbourg aussi, j'imagine que ça fait partie de ton univers musical à fond.
Ah ouais, vraiment, Gainsbourg. Y a le personnage aussi. Hein. Ça aussi, c'est des trucs qui ont bercé mon adolescence, quoi, mon enfance. Je veux dire, quand Gainsbourg arrivait à la télé, on rigolait en fait. C'était un clown aussi, Gainsbourg. Il avait déjà une manière de. Il avait un look, il avait ses cigarettes. Puis il me rappelait mon oncle. Enfin, je sais pas. Mais ils ont fumé beaucoup, un peu provoque, mal rasé. Enfin, je sais pas. Il y avait ce côté. Puis fin.
Ouais.
Au final,
il y avait un côté un peu négligé en même temps. En ce moment, c'était un peu travaillé parce que
une déglingue travaillée, dandy, mais quelqu'un de très fin, très sensible, écorché vif, quoi, dur au cœur tendre.
Grand musicien également, hein, parce que pianiste également de jazz, qui connaît la musique absolument par cœur. Je crois, c'est pas son père aussi qui était musicien, je me semble aussi, qui était un musique classique également.
Puis peintre déçu.
Peintre déçu, effectivement. Il y a toujours cette histoire entre Armin mineur et art majeur.
Et Johnny Depp aime beaucoup Gainsbourg. J'en ai parlé avec lui. Il avait même repris un titre avec Vanessa Paradis, Bonnie and Clyde, et il aime beaucoup Gainsbourg. Et Vanessa Paradis disait que Johnny lui évoquait Gainsbourg. Et je vois ce qu'elle veut dire. Très timide, hein, une grande timidité, un côté écorché vif. Il y a beaucoup de similitudes entre deux.
Je crois que il a fait un album avec Vanessa Paradis. Il a travaillé pour, il l'a produit, il lui a fait un très très bel album. Exactement. Alors là, Serge Gainsbourg, on pourra en parler pendant des heures, c'est quelle période que t'as aimé toi? C'est aussi très années 70. T'as aimé les années 80 ouais. quand il a sorti le No Comment, Love on the
Beat. Ouais, 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 toutes ces choses-là. Ouais, en fait, il est hyper éclectique en plus, hein, Gainsbourg. Hein, c'est chanson à texte au début, capable de faire un peu de la pop anglaise.
Du reggae.
Du reggae. Ensuite, des sons beaucoup plus électro dans les années 80. Et donc, moi, j'ai suivi sur toutes les époques, toutes les périodes.
Et puis, il y a eu ce concept, je crois qu'il y en a eu 4, hein, des albums un peu concept, dont celui.
Mélodie Nelson.
Ouais, Mélodie ouais. Nelson, exactement. Et là, c'est Variation pour Marilou, ouais. voilà, qui est notre réalisatrice. Marilou, elle s'appelle, c'est un beau prénom.
Hein. Marilou.
Magnifique prénom. Hein. Serge Gainsbourg, alors là, c'est Variation pour Marilou. Un ouais. petit mot sur ce morceau-là de Serge Gainsbourg.
Ce morceau-là, en fait.
C'est celui que t'écoutes la nuit.
Ouais, il a un côté de la nuit, je peux pas expliquer. Et c'est, en fait, la force des paroles de Gainsbourg, c'est pas forcément dans le fond, c'est souvent dans les allitérations, la forme. C'est très stylistique. Et là, dans son iris absinthe et son absente, toutes ces allitérations, comme la javanaise et ouais, tout ça. Ouais. Il savait jouer avec les mots, il savait les faire swinger, et c'est rare dans la variété française, je trouve.
Écoute ça, tiens, on va se faire un plaisir. Alors, il fait 7 minutes 30, c'est pas sûr qu'on le mette en intégralité, mais qu'on en profite un petit peu, parce que ça, c'est véritablement culte. Serge Gainsbourg, Variation sur Marilou, dans la playlist de Ta vie avec Bruno Guéry, qui est notre invité jusqu'à 23h sur RMC Gold.
Son iris absinthe, tandis que Marilou s'amuse à faire des volutes de sèches au menthol entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses Lévis. Je lis le vice et je pense à Carole. Absinthe, dis-je, je lis le vice de Baby Doll et je pense à Lewis Carole. se résorbe, que son coma l'absorbe en des rêves absurdes. Sa pupille s'absente et son iris absinthe subrepticement se teinte de plaisir sans attente. Perdu dans son exil physique et cérébral, un nain, elle exhale des soupirs fébriles parfumés au menthol. Ma débile mentale fait teinter le métal de son zip. Et Narcisse, elle pousse le vice dans la nuit bleue lavasse de sa paire de Lévis. Arrivée au pubis, de son sexe corail écartant la corolle, prise au bord du calice de vertigo, Alice s'enfonce jusqu'à l'os.
De ta vie jusqu'à 23h. Bruno Guéry est notre invité ce soir exceptionnel avec le morceau de Serge Gainsbourg, Variation sur Marie-Lou. Voilà ce morceau que tu aimes écouter la nuit. On n'a pas pu se le mettre dans son intégralité, mais extrait de l'album qui s'appelle L'homme à la tête de chou, Bruno. Et on s'en parlait hors antenne, mais on le redit aux auditeurs encore qui nous écoutent. On a dit pareil pour Coluche. Ouais. Et replongez-vous également dans le Serge Gainsbourg des années 70, dans ses concept albums.
Ah ouais, c'est L'homme à la tête de chou, Mélodie Nelson, tous ces disques. Que là, c'est génial.
Absolument magnifique. Malheureusement, ça va toucher à sa fin. Ça va trop vite.
Ça va trop vite,
oui. Il y aura un volume 2 parce qu'on aurait pu parler encore de plein d'autres choses. On aurait dû parler de Nino Ferrer aussi parce que aussi, c'est un artiste que tu as adoré.
Adoré.
Et on en reparlera une prochaine fois.
Une prochaine fois.
Bah oui, bien
je
sûr. Bah évidemment.
Je reviendrai.
Questionnaire de réincarnation. Je te pose la question. Donc ça a été préparé. Tu réponds du tac au tac. On y va. C'est parti. Alors, Bruno Guéry, si tu étais un morceau.
Jumping Jack Flash. Des Stones.
Si tu étais un style de musique.
Le blues.
Si tu étais un chanteur ou une chanteuse.
Marie Laforêt.
Ah, il faudrait que tu me dises quand même pourquoi. Si tu étais un groupe.
Bah, les Stones.
Si tu étais une danse.
Le Boogaloo. Si de James Brown.
Ah oui, bien sûr. Si tu étais un instrument.
Le violon.
Si tu étais un clip.
Thriller de Michael Jackson.
Obligatoire. Si tu étais une bande originale de film.
Il était une fois en Amérique de Morricone.
Ouais, si tu étais un générique télé.
Et bah, l'heure de vérité.
Parfait. Et enfin, si tu étais un générique de dessin animé.
Le Muppet Show.
Ah, t'as joué le Muppet Show et t'avais également.
Et j'avais aussi les Mystérieuses Cités d'Or.
Eh, ça.
Ah, bah, c'est ça.
Bah oui. Oh. C'est bon, ça.
Hein. Ah, ouais. Ah, ouais, j'adore.
Ça, c'était magnifique, ça.
Ah, ouais. Là, pour moi, c'est le mercredi après-midi, on n'a pas école.
C'est et quoi, puis, c'est Récré à deux.
Ouais, c'est ça. Alain Paturel qui raconte à la fin, là. Avec sa voix.
Ah oui. Attends, je sais pas sur le las. Attends, j'avance un petit peu.
Non, je pense pas qu'il revenait pour raconter un peu.
Ah oui, ça c'est le truc. Et le Muppet Show également parce que ça.
Ah ouais, j'ai adoré le Muppet Show.
Je te le mets quand même, l'original. Voilà. Ça c'est magnifique, ça aussi, hein.
Ah ouais.
Ça c'est bon, hein. Extraordinaire. On va pas parler sur le. Ça c'est mon petit show évidemment, à revoir. Et je voulais que tu nous dises un petit peu, juste en deux mots, si t'étais un chanteur ou une chanteuse, t'as choisi Marie Laforêt.
Ouais, Laforêt. Je l'ai découvert assez tard et j'adorais l'actrice, j'ai découvert la chanteuse et j'ai adoré la femme. Ah oui. Quand je lis ses interviews, que je la vois parler, etc., elle me passionne, elle me fascine, elle m'envoûte. Elle a vraiment quelque chose de particulier, c'est une esthète, on a les mêmes goûts, j'aime son caractère, j'aime son humour, j'aime ses livres, j'adore cette femme.
Vous écoutez le meilleur de la playlist de ta vie sur RMC Gold.
Merci d'être là, bien évidemment, on se retrouve en direct lundi pour la Libre Antenne et puis bien sûr des nouveaux épisodes de la playlist de ta vie. On se régale d'avance, mais là ce sont les meilleurs moments de la playlist de ta vie avec à venir dans un instant Jean-Pierre Morgan, le chanteur et l'un des leaders du groupe Les Avions dans les années 80, le temps d'une petite pause très rapide, vous le savez, de 60 secondes et on se retrouve juste après, à tout de suite.
Vous écoutez le meilleur de la playlist de ta vie sur RMC Gold.
Ne bougez pas, Max revient dans une minute sur RMC Gold. Vous écoutez RMC Gold.
Ça fait plus d'un
RMC Gold.
C'est de retour sur RMC Gold.
RMC Gold.
Le meilleur de la playlist de ta vie sur RMC Gold.
Ce sont les meilleurs moments de la playlist de ta vie. Retour en direct live, ne l'oubliez pas, hein. Lundi pour la libre antenne et vendredi pour la playlist de ta vie. Là, ce soir, on vous offre les meilleurs moments. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous êtes prêts. Un petit plaisir en téléchargeant peut-être sur Deezer, sur Spotify ou via l'application RMC, la playlist de ta vie avec Jean-Pierre Morgan, chanteur et l'un des leaders du groupe des Avions. Et bien justement, je me disais, tiens, les Avions, lors d'une interview, j'avais vu qu'apparemment, vous aviez été les premiers à mettre les devant le nom du groupe.
En fait, on s'appelait, on a eu plusieurs noms. À un moment, on s'est appelé Brain Trust.
Ouais.
Ce qui faisait un peu garçon moderne. Mais sauf qu'à un moment, il y a eu Trust.
Eh oui, antisocial.
Donc, alors là, c'est confusion. Et c'est Jérôme, le batteur, qui dit il faut trouver un nom simple. Parce qu'à l'époque, il y avait par exemple Rita Mitsouko, Noir Désir. Enfin,
il y avait Niagara.
Il n'y avait pas encore Noir Désir, mais il y avait.
Indochine peut-être.
Des noms plus complexes quoi. Il y en a qui m'est passé là. Mais c'est pas grave. Et lui, il faut faire comme les Américains.
Ah oui, on parlait de Marquis de Sade. Marquis de Sade, voilà.
Il faut
faire
comme les Américains, les Anglo-Saxons, un truc un peu idiot mais simple.
The Doors.
Et moi, j'étais très embêté parce que mon père travaillait dans l'aviation. D'ailleurs, il allait parfois travailler juste à côté.
Ah ouais.
Et je dis non, pas les avions. Mais il trouvait bon. Finalement, ce nom l'a emporté. Et je crois qu'on a effectivement été les premiers à s'appeler Les. C'est un titre générique. Peut-être. Alors bon, il y a des gens. Parfois, j'ai vu des commentaires sur Nuit Sauvage, par exemple. Quel super groupe, j'adorais ce groupe, mais quel nom à la con.
Ah bon, c'est vrai.
C'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà. Après, il y a eu effectivement Les Innocents, Les Ablettes. J'en oublie. Il y en a eu plein.
Des fois, on peut trouver le nom comme un titre d'une émission de radio un peu con. Et une fois que ça devient un énorme succès, ça rentre dans le collectif. On se dit, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal.
C'est sûr qu'avec un nom comme ça, on a eu le droit à tout. Vous crachez, ça décolle pas, ça décolle. Vous vous envoyez en l'air, bien sûr. Ouais. On a été d'ailleurs un des rares groupes qui a été à un moment déprogrammé. Il y a eu les attentats contre les World Trade Center. Parce qu'il y a des radios qui ont un peu imité ce qui se faisait aux États-Unis. Nous, on n'a rien dit. Moi, j'étais appelé par l'AFP. J'ai dit, écoutez, je n'ai aucun commentaire.
Ah oui.
Ils avaient enlevé les avions. Ils avaient aussi enlevé, sur ce triste événement, certes, ils avaient enlevé la chanson de Dutron.
Ah oui, c'est possible.
De l'air,
ah oui.
Et un avion sans ailes aussi.
C'est vrai que des fois, on est un petit peu focalisé par rapport à ça.
Ça n'a pas duré longtemps, puis ça ne méritait pas de commentaires, je pense.
C'est clair. Alors, les avions, en tous les cas, le groupe créé est formé en début des années 80, même tout début 80, c'est
ouais,
ça
Ouais, tout début 80, ouais.
Ouais, donc c'est là que ça commence. Et pour la petite anecdote, avant qu'on rentre évidemment dans le principe et dans le concept de l'émission, pour en parler un petit peu, c'est qu'au départ, ça n'a pas été simple. C'est vrai qu'on focalise énormément sur le single Nuit Sauvage. Et j'ai vu dans un entretien que vous aviez donné que au début ça n'a pas été simple parce que
il y avait l'album d'avant
mais quand il y a eu tout ça le morceau ne plaisait à personne, la maison de disque le rejetait.
C'est pas aussi simple que ça. Il y avait à côté il savait pas où le mettre. D'ailleurs, j'avais discuté avec Fred de Rita Mitsouko, il avait le même problème. Moi, il savait pas où mettre notre titre, quelle couleur. Il trouvait que c'était variété, mais à la fois rock, à la fois funk. Il savait pas. Donc, c'est marrant parce qu'un an plus tard, quand ça a commencé vraiment à marcher, tous ces arguments sont devenus positifs. Tout d'un coup, c'est bien parce que justement, c'est funk, c'est un mélange, on sait pas trop ce que c'est chanson française, mais c'est quand même pop. Blablabla, il y a eu l'expression qui a été inventée par Étienne Dao, French pop, je crois que c'est lui qui l'a inventé.
Ouais.
Et c'est vrai que au début, c'est comme tout, comme souvent. Il y avait un c'est pas trop, c'est bien, mais et pendant un an, ça marchait comme ça, mais sans plus. Il y a des gens qui se battaient, par exemple le Sony Toulouse. Alors pourquoi on n'est pas de Toulouse? Bon, il y a les avions, mais on n'est pas de Toulouse, mais ça leur plaisait. Ils nous ont beaucoup poussé, ils ont eu beaucoup de résultats radio. Et puis à un moment, on s'est fait virer de la maison de disques.
Ah ouais.
Au mois de mars 86.
Donc ils rendent le contrat, terminé.
Ouais, mais au même moment, les gens me disent qu'ils entendent le titre dans les supermarchés, dans les cafés. Je dis, c'est pas possible. Et en fait, à ce moment-là, les grands réseaux le passaient. On a donc.
On va rendre hommage de son vivant à Max Gozzini, le directeur des programmes musicaux d'énergie de la très grande époque. Qui, on sait que dès qu'il décidait de mettre un titre à la radio, c'était le carton absolu et vente de disques immédiate.
C'est vrai, et lui-même disait que et c'est des titres qui étaient un peu entre les deux, et que lui, à un moment, il a choisi de jouer quelques titres pour l'été 86, dont le nôtre. Et que c'est vrai que tout d'un coup, ça a réconforté peut-être certaines radios, des radios plus petites et des grands réseaux aussi, et que c'est reparti. Et à ce moment-là, on est hyper programmé, et à ce moment-là, on n'a pas de contrat. On a juste un accord avec Sony qui dit, grosso modo, bon, il y a de la demande, il faut qu'on fabrique. Parce que ça, c'est un seul tort d'une maison de 10, ça ne serait pas fabriqué si
on ouais, bien sûr.
Et puis finalement, on a re-signé un contrat beaucoup plus avantageux le 4 août 1986.
Un mal pour un bien, donc finalement. Et je voudrais rendre hommage également aux DJ, parce que, alors je dis tout vous, mais c'est vrai que tu en as parlé dans des interviews, c'est les DJ qui, à cette période-là, paraît-il, c'est ce que tu dis, étaient à la recherche de mid-tempo, des morceaux qui venaient dans les 100-105 BPM, alors, à la George Michael, à la Prince, et que ça tombait bien, ça.
C'est vrai que dans un premier temps, on était surtout joué par des radios un peu spé et des discothèques parce que justement on avait un tempo. Alors on nous expliquait qu'on pouvait passer Cameo avant George Michael ou Prince, cette espèce de tempo 100, 101, ouais. 102 quand on pousse un peu, qui est pas si loin en fait du funk, du rap, Cool on the Gang et tout, donc ça, c'est pratique. Chad Jenkel aussi.
Alors, ah oui.
Ils adoraient passer notre titre et après enchaîner le début de synthé de Chad Jenkel.
Number one. Ouais.
Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. Il y a la communauté gay aussi qui adorait ce titre parce que La Nuit est chaude et sauvage, pour eux, c'était. Il y avait leur grand hymne, les grands hymnes internationaux qu'on connaît, mais ils avaient tout d'un coup un truc français sur lequel on pouvait danser et qui donc célébrait la nuit. Et c'est vrai que ça a fait aussi un sacré tapis. Les gens disent parfois que ça marchait pas, mais ça marchait déjà quand même pas mal, mais plus dans un truc underground. Et tout d'un coup, effectivement, quand il y a eu Max Gozzini et les grands réseaux qui ont mis la gomme, tout d'un coup ça a explosé, ça c'est vrai.
Alors c'est vrai, on focalise sur ce titre-là, les avions, évidemment, Nuit Sauvage, il y en a eu plein d'autres, 200 000 exemplaires de vendus, ça aussi, peut-être même un peu plus depuis. Hein,
Moi je n'avais pas ce chiffre, parce que peut-être que la maison de disques nous a menti, mais il y a eu 3 sorties de Nuit Sauvage. La première, celle qu'on connaît, la deuxième, où c'est un peu accéléré, et encore un gold 3. Et d'après la maison de disques, on était à 750 000, mais bon, c'est pas tout à fait
parce que
pareil.
Nous, on a ramené les maxis, hein. Et je rigole pas, hein. Non, mais on est dans le studio. Moi j'ai une collection.
Ah, le maxi, ouais.
J'ai une collection de maxis impressionnante des années 80. Le producteur qui est en face de toi, 24 ans, il a le maxi.
Producteur à 24 ans, c'est magnifique.
Producteur musical, attention, hein, mais c'est moi qui commande, mais c'est lui qui donne les ordres. Non, plus sérieusement.
C'est beau,
réalisateur également, les 45 tours. Non, mais il y a tout, c'est que c'est incroyable. Le maxi que j'ai sous les yeux, c'est quoi? C'est une version, c'est la dernière, celle-ci?
Alors, c'est la deuxième, ouais.
C'est la deuxième.
La première, la pochette était comme le drapeau derrière, c'était moi qui l'avais dessiné. D'ailleurs, c'était parce qu'on voulait pas de photos. Et la première était un tempo. Après, il y a eu la version que tout le monde connaît, légèrement accélérée, ce qui rend la voix d'ailleurs avec ce son un peu. Et ce qui aussi rend l'accord, hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça se distingue parce que c'est pas accordé juste, c'est genre un quart de ton au-dessus. Et puis après, il y a eu une troisième version, il y a eu le maxi, effectivement. Et après, il y a 4 sorties de Nuit Sauvage. Alors les mauvaises langues disaient qu'ils avaient fait 4 sorties, après c'était CBS, Columbia. C'était aussi Sony. Ils disaient, c'est comme ça, ils vous ont pas filé de disque d'or à l'époque, parce qu'effectivement, à chaque fois, c'était une sortie. Mais c'est vrai qu'on en a. À un moment, quand Nuit Sauvage a commencé à marcher, il y a eu encore 2 ans de plus où le titre passait tout le temps, ouais, le clip, etc. C'était assez.
C'est ce que vous disiez, c'est que vous avez travaillé avec ce titre-là pendant 3 ans, donc même très, très difficile avec les tournées de pouvoir se remettre à écrire et écrire un prochain album, parce qu'il a été ce titre-là.
Ouais, bon, alors, on a fait l'album Fanfare, mais c'est vrai qu'à l'époque. L'idée de Fanfare, d'ailleurs, ça vient de là, c'est qu'on n'arrivait plus à dormir parce que on passait notre temps soit en studio, soit en concert. Tout d'un coup, bon, on pouvait pas dire qu'on était malheureux, on avait toujours rêvé de faire ça. Et aussi beaucoup en promo parce que c'est vrai que c'était assez juste de remercier toutes les radios qui nous avaient joué. Ouais. Et il y avait des réseaux à l'époque, la création des radios libres, mais il y avait aussi des radios plus modestes, il y avait des grandes radios, et à chaque fois on faisait un service après-vente sans aucun côté négatif, mais c'était normal. C'était grâce à ça qu'on avait beaucoup de succès, et pendant effectivement 2 ans, après le succès, on n'arrêtait pas, quoi. On n'arrêtait pas de faire de la promo. Puis après, il y a les autres titres, Bipop qui est sorti.
Ouais, gros titre aussi.
L'album Fanfare. Il y avait Tu Changes, c'est que j'avais pas écouté depuis longtemps. Il y a un bon maxi d'heures sur Tu Changes.
Ah, faut que je le trouve celui-là.
Ah, oui, oui, c'est vrai. Bah, il est quand on a tout réédité en 2013 sur toutes les plateformes. Là, on a remasterisé et réédité. Il est disponible à l'écoute déjà. Ouais. Tu Changes, c'était un assez bon maxi. Tombe la neige, qui avait été rebaptisé par. Je raconte ça souvent parce que au départ, moi, j'avais écrit le texte. On avait été invité par Étienne Dao pour faire une soirée au Transmusical. Bon, je sais qu'on parle beaucoup des Transmusicales en ce moment. C'est en hiver. Et là, on avait eu l'idée de faire une chanson de Noël, une première base très rock, balade rock. Et moi j'avais dit on va l'appeler Noël 68. Toi tu es né en 69.
Ouais.
Nous on était un peu plus âgés parce que c'était le contraste effectivement entre les événements de 68.
Ça a pas plu ça?
Non, ça leur plaisait pas.
Ah ouais, ça leur plaisait pas.
Même aux avions d'ailleurs, je dois dire, ça leur plaisait pas. Donc
membre du groupe, ouais.
Ça a été rebaptisé Tombe la neige. Après il y a une légère confusion avec la chanson d'Adamo.
Ah oui, bien sûr.
Et Adamo, il est nous voir. Il dit, mais je comprends pas, attendez, c'est pas ma chanson. Je dis, non, c'est pas votre chanson. Et d'ailleurs, j'ai revu Adamo grâce aux tournées 80, là, parce que Plastic Bertrand a organisé, il y a maintenant, en Belgique, il y a 3 ans, au début de la guerre de l'Ukraine, une soirée de soutien parce qu'il est d'origine ukrainienne par sa grand-mère. Et j'ai re-rencontré Adamo qui a reparlé d'histoire.
Encore toujours,
il tombe la neige. Lui, c'est un gars très sympathique, avec beaucoup de talent, bien sûr. Et ça, c'est, ouais, j'ai dit, je me rappelle, il y avait votre chanson qui marchait bien, et puis la chanson qui avait le même nom que la mienne. Voilà.
Vous écoutez le meilleur de la playlist de ta vie sur RMC Gold.
Oh là là, ça a été un véritable bonheur que d'avoir pu profiter de vous durant toute cette semaine, que ce soit dans les meilleurs moments de la Libre Antenne ou les meilleurs moments de la playlist de ta vie. Attention, c'est pas terminé, hein, je ne vous lâche pas, car dans un instant, ça sera le mix de Max, comme chaque vendredi soir, jusqu'à minuit. Et puis, notez également le rendez-vous, hein, à ne pas rater entre 22h et 1h, ça c'est nouveau. C'est tous les samedis, 3h de mix. Allez, le mix de Max, c'est parti.
RMC God, 22h, 23h, la playlist de ta vie.